Vous êtes bien sur Radio Orient, le journal François-Xavier de Calonne. La fête de l'indépendance ce dimanche en Tunisie. Nous écouterons le président de la Fondation Maison de Tunisie à la Cité Universitaire Internationale de Paris, Tahar Bathir. Une manifestation ce matin à Tunis à l'occasion de cette fête à l'appel du collectif des citoyens contre le putsch, c'est son nom, rassemblement pour exprimer le rejet des mesures d'exception prises par le président Kais Saied. Des djihadistes présumés ont tiré sur des gendarmes la nuit dernière à Kairouan, dans le centre de la Tunisie, des tirs près de l'entrée d'une caserne de la garde nationale. C'est aujourd'hui la journée internationale de la francophonie. Dans votre édition, Elisabeth Daldoul, qui a fondé les éditions Elisa en 2005 à Tunis et qui publie de nombreux auteurs francophones. Emmanuel Macron assiste en cette fin de journée à une cérémonie pour marquer le 10e anniversaire des attentats commis par Mohamed Merah, une commémoration aux côtés des anciens présidents Nicolas Sarkozy et François Hollande, ainsi que du président israélien. Ce drame en Belgique, une voiture a foncé dans la foule lors d'un carnaval en Wallonie. L'invasion de l'Ukraine par la Russie, une école d'art qui abrite 400 personnes réfugiées à Mariupol, a selon les autorités ukrainiennes été bombardée par les forces russes. La commémoration du 66e anniversaire de l'indépendance de la Tunisie. Des festivités ont également lieu en France. Exemple à la Maison de la Tunisie de la Cité Universitaire de Paris. Entretien avec le président de la Fondation Maison de Tunisie, Tahar Bathir.
C'est un message de fierté pour tous les Tunisiens. Donc la fête de l'indépendance, quelle que soit notre orientation politique, les adultes et les jeunes, tout le monde a un sentiment de fierté grande. Fierté pour le jour de l'indépendance.
Vous dirigez la Fondation Maison de Tunisie. C'est une fête qui a une résonance, bien entendu, très importante pour l'ensemble des étudiants.
Oui, c'est vrai. Il y a les fêtes religieuses, donc l'Aïd, le Ramadan et l'Aïd al-Kbir. C'est des fêtes aussi qui sont extrêmement importantes religieusement et culturellement pour les Tunisiens. Après ces deux fêtes, il y a la fête de l'indépendance. Incontestablement, c'est la fête qui relie, qui rassemble tous les Tunisiens sans aucun doute, et c'est une fête qui est fêtée en Tunisie, c'est un jour férié bien sûr, et il y a énormément de festivités, il y a des activités culturelles de partout dans le pays, tout le monde se sent fier, le drapeau il est partout, omniprésent dans tous les espaces publics, les écoles, les universités, partout, surtout dans un contexte international où il y a 150 nationalités différentes à la Cité internationale de Paris, donc les Tunisiens, peut-être à l'étranger, sentent la fierté de fêter cet événement plus que le jeune Tunisien qui est encore en Tunisie.
Lors des précédentes célébrations de la fête de l'indépendance au pavillon de la Tunisie, à la Maison de la Tunisie, des étudiants d'autres nationalités participaient à la fête.
Ça c'est général. À chaque fois que nous organisons un événement culturel à la Cité internationale universitaire de Paris, il y a au moins 30-40% du public qui n'est pas tunisien, c'est des amis de la Tunisie, c'est des étudiants d'autres nationalités à la cité, et même c'est des invités qui viennent d'ailleurs, en dehors de la cité, qui viennent participer et assister. Voilà, j'ai bien insisté que, par exemple, la pièce de théâtre Bourguiba, c'est une pièce de théâtre qui est en bilingue, 60% du texte il va être en français, donc c'est accessible. Il y a aussi un texte qui va accompagner, qui va être affiché, qui va accompagner la pièce de théâtre. Donc c'est accessible pour les non-arabophones. Et donc moi je lance une invitation à tous ceux qui souhaitent regarder cette pièce de théâtre. Ça va être très sympathique et c'est plein de symbolique. Hein. Le 20 mars, la fête d'indépendance, au pavillon Abou Bourguiba et la pièce de théâtre Bourguiba. Et jouée par un Rajab Al-Had qui est le fils d'un grand opposant Bourguiba, donc c'est une réconciliation historique entre l'artiste et la Tunisie, le fondateur de la Tunisie moderne, Abou Bourguiba.
C'est l'une des richesses de cette cité universitaire, c'est un pont entre les différentes cultures, entre les différents pays.
Oui, exactement. C'est une richesse incroyable. Ce qui passe à la cité universitaire, ça démarque pour la vie, hein. C'est une ville dans la ville, la cité universitaire, c'est 40 maisons, 14 000 étudiants de 150 nationalités différentes. Donc ce qui passe ici, c'est pour les activités culturelles communes, pour l'ouverture d'esprit, pour les activités sportives, C'est ça qui fait la richesse de cette cité universitaire, qui est une expérience unique au monde. Hein.
Et c'est un lieu ouvert à chacun d'entre nous également.
Oui, c'est un parc public. Hein. C'est un parc ouvert au public. D'ailleurs, il y a un salon de thé à la Fondation Maison Tunisie qui est ouvert au public, qui se trouve à la cité, mais qui est ouvert au public externe de la cité. Donc, qui est visité, par exemple. Ouais. Et le salon s'appelle Zaïm. Zaïm, ça fait référence au Zaïm Habib Bourguiba.
Pouvez-vous nous parler des différents projets au sein de la Fondation Maison de Tunisie?
Après les activités sociales que nous continuons à organiser, prochainement, tout le mois d'avril, on va distribuer près de 450 repas chauds tous les jours pour les étudiants en difficulté, que nous continuons cette année grâce à des orateurs et l'ami à la Tunisie. La nouveauté, c'est que à partir du mois de mai, nous lançons des formations diplômantes en langue arabe pour les non-arabophones, sur demande de plusieurs étudiants et non-étudiants adultes qui souhaitent avoir des formations en langue arabe littéraire, hein, avec une certification de ces formations. Et donc, nous avons établi une coopération avec l'Institut Monde Arabe à Paris et puis l'Institut Bourguiba School à Tunis, qui, depuis les années 50, organise des formations de langue arabe diplômantes pour les non-arabophones. Et donc, on va pouvoir faire ces formations. C'est une ouverture culturelle supplémentaire que nous envisageons d'entamer à partir du mois de mai 2022.
Et on s'en souvient, vous aviez participé à l'aide des étudiants tunisiens durant la crise sanitaire. Ça, c'était élément très important.
Oui, depuis en 2020 et 2021, d'habitude, on organise 120, 150 événements culturels, conférences scientifiques par an. Et pendant ces années de Covid, nous avons fait énormément d'actions culturelles au profit des étudiants en difficulté, distribution de denrées alimentaires, aide financière, aide psychologique, job d'étudiants, logement d'étudiants. On a fait une campagne et voilà, on était parti pour un objectif assez modeste. Et nous sommes arrivés à 400 000 euros de dons, autant de denrées alimentaires. Et donc ça a pris une dimension international, même des hommes d'affaires de Tunisie, des ambassades, l'Institut français en Tunisie, la région Île-de-France, tout le monde a participé à cet élan de solidarité. Et dernièrement aussi, en juillet-août 2021, il y a eu une initiative de son Excellence l'ambassadeur de Tunisie à Paris, parce qu'il y avait aussi un problème du Covid qui était devenu critique en Tunisie, donc nous avons lancé une campagne de solidarité et on a envoyé beaucoup de matériel médical. La Direction générale de la santé militaire en Tunisie, en collaboration avec l'ambassade de Tunisie à Paris, on a décrété beaucoup d'avions, beaucoup de vols, d'envoi du matériel médical et ça a été géré, entre autres, par la Maison de Tunisie. Un compte spécial a été ouvert et des donateurs en matériel et en argent, avec lequel il y a eu une staff médicale qui a acheté exactement le matériel médical dont la Tunisie avait besoin à cette époque. Et c'était aussi une très grande réussite.
Le président de la Fondation Maison de Tunisie, Tahar Bathir. Une manifestation a eu lieu ce matin à Tunis à l'appel du collectif des citoyens contre le putsch à l'occasion de la fête de l'indépendance. Un rassemblement pour exprimer de nouveau le rejet des mesures d'exception dont le gel du Parlement prise par le président Kais Saied le 25 juillet dernier. Le collectif dénonce des atteintes aux libertés et à la démocratie et demande un retour au processus constitutionnel. Ce drame en Belgique, une voiture a foncé dans la foule lors d'un carnaval en Wallonie. Il y a au moins 6 morts, 12 blessés graves et une vingtaine de blessés légers. C'est arrivé dans la commune de la Louvière. L'automobiliste a poursuivi sa route avant d'être interpellé. L'invasion de l'Ukraine par la Russie, une école d'art qui abrite 400 personnes réfugiées à Mariupol, a selon les autorités ukrainiennes été bombardée par les forces russes. Une annonce du Parlement ukrainien, le Parlement qui affirme que des femmes et des enfants ainsi que des personnes âgées étaient cachées dans le bâtiment. Emmanuel Macron assiste ce dimanche à une cérémonie pour marquer le 10e anniversaire des attentats commis par Mohamed Merah, une commémoration aux côtés des anciens présidents Nicolas Sarkozy et François Hollande, ainsi que du président israélien Isaac Herzog. Il y a 10 ans, Mohamed Merah tuait à Toulouse et Montauban 7 personnes entre le 11 et le 19 mars 2012, 3 militaires à Montauban, puis 3 enfants et un enseignant dans l'école de confession juive Hortora à Toulouse. C'est arrivé la nuit dernière à Kairouan, dans le centre de la Tunisie. Des djihadistes présumés ont tiré sur des gendarmes près de l'entrée d'une caserne de la garde nationale. Le syndicat de la Sûreté nationale de Tunis annonce qu'il n'y a pas de blessés. Le syndicat qui ajoute qu'il est probable que les auteurs de cette attaque appartenaient à l'une des cellules terroristes après la révélation de leur plan destructif et de l'arrestation ces derniers jours d'une cellule terroriste opérant entre Sousse et Kairouan. C'est aujourd'hui la journée internationale de la francophonie. Cette date fait référence à la naissance, le 20 mars 1970, à Niamey, au Niger, de l'Agence de coopération culturelle et technique qui allait devenir l'Organisation internationale de la francophonie. En cette journée internationale, entretien avec Elisabeth Daldoul qui a fondé les éditions Elisade en 2005 à Tunis et qui publie de nombreux auteurs francophones. Elisabeth Daldoul.
Les journées, d'une façon générale, qui marquent un événement qui honore, c'est toujours un moment M ou T pour mettre l'accent sur, en l'occurrence ici, sur la francophonie. Bien que, bon, je me dis que la francophonie, c'est un état de pensée, pour moi, de travail, ça véhicule des valeurs, c'est des rencontres avec des cultures multiples, et que ça soit sur territoire français ou tous les pays où la langue française est pratiquée, utilisée, langue officielle ou non. Voilà, donc une journée de la francophonie, c'est voilà, pour peut-être un moment s'arrêter sur ce qu'est la francophonie, mais c'est vrai qu'au-delà de ça, c'est une géographie du monde.
Les valeurs incarnées par la francophonie, quelles sont ces valeurs pour vous?
Pour moi, la francophonie, c'est vraiment des valeurs d'échange, de diversité, de rencontre, d'écoute de l'autre, d'altérité, puisque la langue française est parlée sur les 5 continents, sur chaque continent et dans chaque pays, cette langue est maniée et adaptée et porteuse de valeurs culturelles propres. C'est cette richesse fait que je publie en langue française, c'est qu'on va à la rencontre de l'autre et l'intrinsèque esprit de l'autre. Là, à Dakar, le français est parlé avec toute la richesse de toutes les langues du Sénégal. En Tunisie, la langue française est accompagnée et soufflée par aussi la langue arabe. Donc finalement, la langue française, pour moi, respire plein de cultures. Et c'est pour moi sa richesse et sa valeur.
Vous évoquez Dakar, la capitale du Sénégal, car vous êtes né à Dakar, d'une mère française et d'un père palestinien, et vous avez grandi entre plusieurs cultures. C'est aussi un aspect important.
Oui, tout à fait. Je pense que c'est ce qui m'a aussi ouvert les yeux sur les autres, en disant que chacun avait ses a priori, sa conception, sa culture, sa conception de la vie, et qu'il fallait l'un et les autres se rencontrent. La langue en est un des moyens, mais aussi d'autres vecteurs, comme la culture, comme le savoir. Et c'est ce qui m'a effectivement donné envie d'être éditrice et de créer des passerelles entre les cultures, entre les gens, et grâce à une langue que j'utilise, cet outil, et en l'occurrence la langue française.
Ces valeurs de la francophonie, vous estimez qu'elles sont suffisamment mises en lumière? Vous évoquez des ponts entre différentes cultures, c'est un aspect important aujourd'hui où l'on a parfois le sentiment qu'il y a une certaine fermeture liée aux identités.
Oui, vous avez tout à fait raison. On est dans un siècle de la communication à outrance, à travers les médias, les réseaux sociaux, etc. Et paradoxalement, il y a des a priori, des clichés perdurent. Donc, effectivement, c'est essentiel de continuer à être des passeurs de culture pour maintenir en éveil les consciences et dire attention, soyez vigilants, ne vous laissez pas manipuler par tel ou tel élément de l'environnement, qu'il soit politique, médiatique ou autre. Et aujourd'hui, on le voit bien, les tensions dans le monde perdurent ou même s'intensifient, ce qui est incroyable. On n'est plus au Moyen-Âge et on en est encore dans des tensions humaines incroyables. Donc je pense que le rôle de passeur est essentiel et doit même se renforcer. Enfin, c'est notre rôle à tous.
Et de nombreux auteurs que vous publiez sont aujourd'hui des passeurs.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire découvrir des sociétés autres ou bon, c'est le rôle de la littérature, hein, d'une façon, enfin, notamment du roman, de la fiction, c'est de plonger dans les émotions multiples et de l'être humain, de l'homme ou de la femme, et dans ce qu'elle a, dans ce qu'il y a de plus intime. Et c'est vrai que, enfin, voilà, mon catalogue est riche d'auteurs, bon, pour simplifier, je dis du Sud, mais qui vont de la Mauritanie à la Palestine, donc qui balayent une bonne part de la Méditerranée, de l'Afrique, de l'Orient. Et en fait, ce sont des passeurs à leur façon. Et on revient à la langue française, en tout cas pour les locuteurs qui lisent et qui lisent en langue française.
Elisabeth Daldoul, fondatrice de la maison d'édition tunisienne Elizade. Et en cette journée internationale de la francophonie, ce message sur Twitter de l'ambassadrice de France au Liban. Parler de francophonie, c'est parler d'un Liban qui a envie de vivre et vivra uni dans sa diversité, avec un appui résolu à l'éducation et à la culture. La France est engagée pour que le Liban préserve cet atout pour l'avenir de sa jeunesse, selon les mots d'Anne Griot. Fin de cette édition, vous êtes bien sûr Radio Orient. L'invité de la bibliothèque de Radio Orient à 19h est Alice Kaplan, autrice de Maison Atlas, publiée aux éditions Le Bruit du Monde et aux éditions Barzac, émission présentée par Loïc Barrière. Chem Zedine Hafiz, recteur de la Grande Mosquée de Paris, sera l'invité de Rencontre à 21h. Très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient et un très grand merci pour votre fidélité.